La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez RMC.
23h17, Florent Gautreau et Kevin Diaz sont là. Johan Crochet également, en analyse le match de l'Italie qui a battu l'Albanie 2-1 ce soir. Et Jesuino est avec nous au 32-16 supporters italiens. Bonsoir. Salut.
Bonsoir à tous.
Salut. Ciao. Ça va?
Ouais, super, super, soulagé là.
Il y a un truc avec l'Italie, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, d'expérience, il ne faut jamais trop se fier au premier match de l'Italie dans une grande compète. Non,
enfin,
comme il y a une maturité quand même, bon, voilà, dans cette sélection, une façon d'aborder les compétitions, le premier match n'est souvent pas celui qui te donne une tendance claire sur la sélection italienne.
C'est sûr, parce qu'on ne voit jamais, c'est vrai que l'Italie, on ne parle jamais, parce que moi, des fois, mon favori, j'aime pas ça, parce qu'on se croit trop beau et au final, on tombe. Et je sais qu'on ne parle pas souvent de l'Italie, mais l'Italie, bon, elle répond présent. Hein. Le dernier Euro, on était là, on a commencé tranquille aussi. Mais après, ça m'a fait peur aussi aujourd'hui. La première période était très, très bien. La deuxième, plus chaud, on a failli se faire un hold-up. Hein. C'était pas loin. Mais voilà, c'était chaud, quoi. Franchement, un peu rassuré aussi, parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a des piliers et tout, et des surprises comme Calafiori, très bien joué, Barella au top, voilà, un peu déçu de Scamacca, ce qu'il a loupé. Mais voilà, après, je suis confiant. Après, voilà, je pense qu'on va sortir un gros match pour l'Espagne, et ça va le faire, je pense.
Ça veut dire que pour toi, l'Italie a tout pour garder son titre, c'est ce que je comprends là.
J'espère, après, c'est toujours dur de garder un titre. Parce que voilà, tout le monde nous attend, je pense.
Alors moi, évidemment, on me le ressortira si l'Italie est championne d'Europe. Mais alors moi, j'y crois. Malgré tout, et même s'il y a les quelques promesses dont on a parlé, moi, j'y crois pas trop. Hein.
Je dis l'Italie, faut jamais tirer de plan définitif.
Là, on a pas. Tu as posé la question de défendre le titre.
Moi, on aura le début d'une réponse face à l'Espagne. Oui. Qu'est-ce que ça va donner parce que c'est quand même un euro.
D'autant que l'Espagne est plus impressionnée aujourd'hui que l'Italie, quand même.
Mais voilà. Donc ce sera un bon test.
On se rappelle 2006. Et je pense que tous les gars, ils veulent retourner à Berlin, hein, même Buffon. Hein, je pense que faut fermer les valises et retourner à Berlin, je pense. Hein, tout le monde veut y aller. Hein. On fait le doublé. Hein.
C'est pas la même équipe. Hein.
Avec les fameux commentateurs de Sky Italien et Fabio Caressa qui dit Andiamo a Berlino Beppe, en parlant à son compère Beppe Bergomi après la demi-finale contre l'Allemagne. On va à Berlin, Beppe, effectivement, le chemin tout tracé. D'ailleurs, ce soir, c'est marrant parce qu'il joue à Dortmund. Et Del Piero était là pour la télé italienne, pour Sky, une des deux télé italiennes. Et il y a eu beaucoup d'allusions à cette demi-finale gagnée contre l'Allemagne en 2006.
Tu as eu une première réaction, je crois, de Spalletti, là, que tu as vu, Johan.
Ouais, alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est que dans la deuxième mi-temps, lui, alors il commence par dire qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont plu, et que finalement, c'est une bonne première prestation de l'Italie. Par contre, ce qu'il a pas trop aimé, c'est que ce qu'on disait, hein, ils se sont créés des opportunités en deuxième mi-temps où ils auraient pu aller de l'avant et finalement ils faisaient que des passes en arrière où ils reprenaient un temps de jeu pour reconstruire quelque chose lentement et ça l'a passablement agacé. La deuxième chose, et c'est ce qu'il faut retenir je pense, c'est qu'il l'explique, parfois on est trop dans le confort et on n'est pas assez méchant. Et je pense que la deuxième mi-temps, il va y avoir un gros débrief demain hein, pour les joueurs en disant « Ok, la première mi-temps, elle était vraiment à un niveau de championnat d'Europe des Nations. La deuxième mi-temps, par contre, il n'y a pas grand-chose qui va. Alors, on peut étendre... allez, ils ont bien fait jusqu'à la 55e. Mais à partir de la 55e, ça a été nettement insuffisant et ça n'a pas trop plu à Spalletti non plus. Et Barella a confirmé hein, qu'il était totalement cramé en deuxième mi-temps.
Bon, tu es d'accord avec ce que j'ai dit là sur les premiers matchs de l'Italie, que c'est jamais
forcément
y a pas une tendance définitive sur cette équipe.
Non, il n'y a pas de vérité absolue, ça c'est clair. il faut quand même au-delà même de comment tu démarres sur le plan de la prestation, ce qui a été très important, c'est de tout de suite engranger 3 points. Parce que dans cette espèce de tout petit championnat où avec les meilleurs troisièmes tu passes, normalement 3 points, ça doit te permettre aussi de passer. Donc,
en fait, avec 3 points, t'as pris, enfin, en tout cas avec 4, t'es qualifié, mais avec 3, tu peux l'être. Voilà.
Ouais, exactement. Donc, ça te libère aussi un petit peu mentalement pour une équipe qui n'a pas un énorme vécu ensemble, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui étaient à l'Euro précédent qui sont dans cette sélection-là. Et donc, ça aussi libère sans doute un petit peu les joueurs avant d'affronter les deux gros morceaux du groupe, Espagne et Croatie.
Alors, je remercie Jésuino. J'aimerais qu'on fasse quand même une évaluation un peu plus poussée. On peut y aller sur les Italiens, parce que, bon, effectivement, même s'il y en a qui ont fini cramé, Barella a fini cramé, ça n'empêche pas qu'il ait fait un très bon match.
Barella, c'est bien dans la tradition de ces meneurs et de ces joueurs qui font la diff, comme ça, techniquement, quand un pied incroyable. Bon, j'espère qu'il va physiquement, qu'il va en plus reprendre du. Enfin, revenir fort. Après, moi, j'ai vraiment bien aimé, parce que je le connais peu, Calafiori. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé son attitude. Déjà, c'est sa troisième sélection, c'est ça ?
Alors là, c'est la quatrième, je crois.
Quatrième, enfin, en tout cas, voilà. Je veux dire, pour un jeune
joueur... Non, c'est la troisième, t'as raison, c'est la troisième.
Troisième, j'ai entendu ça, pour tout te dire. Mais troisième sélection, j'ai trouvé que le gars, une prise d'initiative, de responsabilité, une qualité, pour le coup physique, un apport important. Moi, j'ai adoré.
Son profil, hein. Alors, juste pour expliquer, c'est un latéral de formation, latéral gauche. Et ça fait que quelques
1m88, latéral gauche ?
Ouais, exactement. Et c'était d'ailleurs un des plus grands espoirs du centre de formation de la Roma. Il a eu une grave blessure. Et ensuite, il a eu du mal à revenir. Et Mourinho ne lui a pas trop fait confiance. Mais comme c'est un jeune, c'était un peu logique avec Mourinho. Il est parti à Bâle. Il a commencé à jouer un petit peu central. Et c'est vraiment Thiago Motta à Bologne qui l'a remis en défense centrale. Enfin, qui l'a mis en défense centrale, qui l'a imposé là. Et
certains membres de la flotte auraient dit qu'il n'a pas fait son trou à Bâle.
Oui, bon, par exemple. Mais il est en vacances. Enfin, il est off, comme on dit. donc, non, mais.
Beaucoup de joueurs de Bologne. Beaucoup de joueurs de Bologne. Alors, il y avait plein de Suisses, là, cet après-midi.
Ouais, Freuler, Aibischer, je crois que c'est Endoy.
Zirze, du coup. Trois Suisses, ouais.
Vous voulez dire un euro à la sauce bolognaise?
Mais oui, Calafiori, dans l'utilisation du ballon, il est très intéressant. Attention, par contre, à la gestion de la profondeur. Sur les dernières minutes de match, tous les longs ballons en profondeur, il a eu vraiment du mal à gérer la trajectoire. Et autre chose, parce que comme tu es sur un, je vais pas dire un non-match, mais une sorte de d'attaque-défense quelque part, tu t'attaches à plein de petits détails que tu vois comme ça et tu te dis attention sur les matchs suivants, ça passera pas. Mm-hmm. Bastoni, les mains baladeuses à tirer les maillots et à pousser dans la surface les joueurs.
Exact.
Il va vraiment falloir faire attention, parce que tu peux le faire une fois pendant l'Euro. Mais ça passera pas tous les matchs.
Ouais, c'est clair qu'il y a eu des situations. Enfin, là, pour ça, les Italiens, il faut qu'ils fassent gaffe. Même le carton pris très tôt, ils font faute. D'ailleurs, les Suisses, c'est un peu pareil. Les fautes, entre guillemets, là, qu'on appelle utiles, tu sais, genre, je fais faute. Ouais. Oui, monsieur l'arbitre, il y a faute, pas de problème, je prends le carton. Je crois que c'est Pellegrini, hein, c'est ça ? Ouais. Bon, très tôt quand même, hein, très vite. OK. Ça aussi, dans des matchs plus chauds, plus costauds, ça demande des gestions. En tout cas, ouais, effectivement, tu as raison. On n'a peut-être pas vu avec l'opposition, avec le jeu offensif adverse, parfois inexistant, mais moi j'ai bien aimé l'attitude et les qualités de ce joueur-là. Quoi.
Ouais, après, moi je trouve Calafiori, évidemment, Barella, Pellegrini fait une première mi-temps vraiment très intéressante. Après, il plonge un peu physiquement. Chiesa.
Chiesa a été élu homme du match là, par l'UEFA. Comment on juge le match de Jorginho, qui était le mec étincelant du dernier Euro?
Il est très utile dans tout ce qu'a fait l'Italie, finalement, dans le contrôle. Je veux dire, quand tu as un match comme ça à contrôler, évidemment que Jorginho, il est très très utile. Par contre, vraiment, je réinsiste là-dessus, dans les 15-20 dernières minutes, le nombre de ballons perdus, où tu te dis, si tu es dans le contrôle mais que tu n'avances pas, c'est pas pour perdre le ballon. Si tu fais des passes latérales à 10 mètres ou à 15 mètres qui sont molles et qui sont interceptées, à ce moment-là, accepte de prendre plus de risques et donc de perdre des ballons, mais qui vont t'apporter d'autres choses sur phase offensive. Là, ils ont contrôlé, mais en perdant des ballons... En Italie, on dit sanguinos, ou un ballon qui, en gros, peut te faire très mal.
Des ballons chauds, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, un ballon qui peut te faire extrêmement mal en transition. Donc là-dessus, je trouve que Jorginho, avec l'expérience qu'il a, il doit être en capacité de mieux gérer ces situations-là.
Après, il y a quand même un problème avec Jorginho, c'est qu'il joue un football d'un autre âge quand même. Il est quand même très très lent. C'est difficile de quand il est fatigué. En plus, comme tu as dit, sur les 15-20 dernières minutes, ils étaient tous fatigués. Donc déjà que lui, il n'est pas très rapide. Donc fatigué, c'est vraiment très très lent.
Mais et ça
donc,
dépend Kev qui tu lui adjoins. C'est surtout ça, je pense, la clé.
Non, mais bien sûr, mais à partir du moment où Barella est fatigué, donc du coup, tu as un changement. Ouais. Après, quand il y a des changements, il y a quand même deux joueurs sur les trois milieux de terrain qui sont remplacés. Donc forcément, l'alchimie au milieu de terrain, elle met un peu de temps à se refaire ou elle ne se refait pas du tout jusqu'à la fin du match, quoi.
Non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, moi, le manque de dynamisme au milieu de terrain, vraiment...
Tu veux dire qu'il manque Verratti ?
Non. T'en profites que Daniel soit pas là, toi. Non, c'est même pas ça. C'est plus vraiment, tu vois, des joueurs du profil de Barella et Fratesi. Il en faudrait un troisième pour qu'en cours de match, tu aies ce type de profil qui t'amène beaucoup de dynamisme. Florunso est capable plus ou moins de le faire, mais on est quand même sur un niveau inférieur, hein, au-delà même de l'expérience, sur le niveau global du joueur. Et derrière, Cristante n'est pas du tout ce prototype de joueur-là.
Ah bah non.
On peut espérer sur Fagioli. Fagioli est un meneur de jeu reculé qui est très intéressant. Il faudra voir d'ailleurs, hein, si au cours de l'Euro, là, Fagioli ce soir était blessé et il pouvait pas être titulaire, il pouvait pas jouer. Mais je suis pas persuadé que sur l'Euro, on puisse pas avoir un milieu à trois définitif avec un double pivot, double playmaker, Fagioli, Jorginho, Barella un peu plus haut, Pellegrini aussi. Faudra voir comment ça s'articule, mais Fagioli, il est très apprécié de Spalletti.
Dis-moi, le meilleur numéro 9 italien en ce moment, c'est Scamacca ? De ton point de vue ?
Oui, moi je pense que oui. Moi, c'est un profil que j'adore, mais je concède aisément que en sélection, devant le but... C'est pas ça. Il suffit de regarder tout bête, hein, les stats. Un seul but en sélection, c'est pas suffisant. Moi, j'adore ce profil. Et le lundi soir, dans les Drôles de Dames, avec Nico Jamin, j'en ai parlé très souvent. Moi, j'apprécie tout ce qu'il est capable de faire. Il y a une différence entre le faire en Serie A et le faire. C'est un peu avec des profils totalement différents, hein, mais Immobilier, il mettait 30 buts par saison en Serie A. Arrivé à la sélection, c'était dur. Mais de toute façon, hein, dites-vous bien que. Au-delà même du simple cas Scamacca ou Immobilier la dernière fois, vous savez quel est le meilleur buteur en sélection depuis 2000 ?
Vieri ?
Ah non.
Vas-y, en sélection ?
Bah, oui, en sélection, depuis 2000.
Depuis 2000 ? Je sais pas, Del Piero ?
Sur les 24 dernières années.
Del Piero ?
Non.
Ah, Inzaghi alors ?
Non plus, c'est Daniele De Rossi.
Ah ouais, c'est des pénalties alors.
Ah oui,
beaucoup de pénalties et des frappes de loin. Oui. Donc c'est pour montrer que même à une époque où il y avait beaucoup de neufs, les Montella, Vieri, Inzaghi, etc., bah, c'était pas forcément beaucoup mieux. Alors ils marquaient eux quelques buts, Luca Toni, Gilardino, ils marquaient quelques buts quand même, mais on n'était pas non plus sur des mecs, des Miroslav Klose qui te mettaient je sais plus combien de buts sur une édition de Coupe du Monde. Hein.
Un mot sur l'Albanie quand même pour conclure, les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé
d'ailleurs le buteur joue en Italie.
Oui, ouais, Rami à Sassuolo.
Il y en a beaucoup qui jouent en Italie.
Oui, ouais, il y a le capitaine qu'on avait vu à l'Atalanta.
Il y a 10 convoqués sur 26 qui jouent en Italie.
Ouais, comme les Suisses vont jouer en Allemagne, les Albanais vont jouer en Italie.
L'Albanie, en fait, a été... le côté aussi bas, aussi bloc bas à ce point, moi, m'a un peu...
En plus, quand tu marques à la première minute, voilà, ça t'aide pas.
M'a un peu gêné parce qu'après, effectivement, ils se sont clairement dit on va faire comme ça et on va aller essayer de les piquer en contre. J'ai préféré l'Albanie finalement de la deuxième période puisque paradoxalement ils n'ont pas marqué, mais au moins comme le disait Johan, ils ont quand même, ils sont pas restés avec leur ligne de 6 là derrière, ils ont décidé d'avancer un peu. C'est quand même limité. C'est pour ça que au regard de ce qu'on a vu sur les autres grosses nations, tu vois, que l'Italie se soit fait, on va dire, autant peur, aussi peur avec cette fin de match, c'est quand même un peu embêtant.
Et ce qui est dommage, moi je pense vraiment qu'ils avaient les moyens de plus gêner l'Italie en jouant un petit peu plus, ouais, parce que pour connaître beaucoup de ces joueurs-là qui jouent en Italie, il y a vraiment des joueurs avec une belle qualité technique et capables de poser pas mal de problèmes.
Et puis il leur manque peut-être un mec un peu chapeau 1, quoi, et, tu vois.
Ouais, sans doute. Ouais, t'as raison.
Non, mais le but est un faux ami, en fait, leur but. Non, mais le but à première minute, c'est paradoxal, mais si tu veux, effectivement, ils se sont tout de suite mis derrière, bam, et puis on arrête de jouer parce que c'est inespéré. Et alors que peut-être que, tu vois, ce qu'ils ont montré par cette
première
période, ils étaient capables de le faire.
Sur un petit coup du sort, ils ont pu égaliser quand même.
Mais je pense que si l'Albanie fait le même type de match contre l'Espagne et la Croatie, ça va être trop dur. À eux de sortir plus, à eux de. Parce que même l'Espagne, on l'a vu aujourd'hui, l'Espagne, défensivement, tu peux les mettre en difficulté. Hein, donc à eux de jouer sur leur vraie qualité et pas faire un ce que disait Flo, une ligne de 6 de la deuxième à la 45e minute, c'est pas possible.
Hein. À la 30e minute, tu regardais les visages, ils avaient tellement couru dans le vide déjà, c'était trop dur, trop dur. Et tu as raison sur l'Espagne, c'est une bonne remarque. Dans la foulée de leur but, de chacun des deux premiers buts, tu rentrais comme du gruyère dans la défense espagnole. Les Croates ont une occasion après chaque but espagnol quasiment. Donc et là, c'est pareil, l'Espagne a clairement été la meilleure, mais si tu regardes bien le match, t'as des opportunités.
Ouais,
c'est
l'équipe qui doit jouer. Ils peuvent en prendre 4 aussi contre l'Espagne.
Oui, par contre, ils peuvent en prendre beaucoup.
Ah oui, bien sûr, aussi. Mais en tout cas, quitte à ça, justement, t'as intérêt, quand même, aujourd'hui, c'est quand même l'histoire un peu du foot moderne. Intérêt d'essayer de jouer, d'essayer de faire quelque chose plutôt que d'attendre.
On va en parler de l'Espagne dans quelques secondes. Merci Johan. Demain les Pays-Bas jouent contre la Pologne.
Exactement. Donc, à demain alors.
Exactement, tu seras avec nous. Match du groupe de la France.
Non, mais n'empêche que la réussite des gros là dont on parle met un peu la pression sur les futurs qui arrivent. Gros. Ah, oui, c'est-à-dire le Pays-Bas contre la Pologne, la France contre l'Autriche. Tu te dis, bon, bah.
L'Angleterre.
L'Angleterre aussi, évidemment.